Bonjour à tous et bienvenue. Je suis Pauline, une endo-girl. Je vous accueille dans le podcast d'EndoBloom, la plateforme du Lab AMI dédiée à l'endométriose, qui accompagne les femmes et leur entourage en recherche de réponses sur cette maladie chronique avec laquelle on doit apprendre à vivre au quotidien. Dans ce podcast, nous avons donné la parole aux soignants, ce que toute endo-girl en errance de diagnostic souhaiterait rencontrer. À l'écoute, ouvert, empathique et surtout spécialiste du sujet. Ils nous racontent leur métier et leur point de vue sur la prise en charge de l'endométriose en France. Et nous espérons que cela vous apportera des clés pour mieux vivre avec cette maladie et l'envie de ne jamais rien lâcher. Et maintenant, bonne écoute! Bonjour à tous, je suis ravie d'accueillir aujourd'hui Charlotte Muller, coach sportive et professeure de yoga. Elle a accepté de nous parler de son métier et de son lien avec l'endométriose. Merci Charlotte.
Merci de m'accueillir.
Alors, première question, peux-tu nous expliquer en quoi consiste ton métier et son lien plus spécifique avec l'endométriose ?
Bien sûr. Alors, j'ai un diplôme d'éducatrice sportive, donc c'est un diplôme qui est reconnu par le ministère des Sports, pour lequel on a une formation assez longue avec tout un pan qui est anatomique. J'étais déjà en amont professeure de yoga spécialisée dans tout ce qui est féminin, c'est-à-dire les hormones, qui ça aille de la puberté à la ménopause, le prénatal et évidemment la fertilité. Et tout un pan de mon activité est dédié à l'endométriose et aux douleurs qui peuvent venir avec la maladie et comment, avec le mouvement, plus que le sport, mais vraiment le mouvement, essayer de soulager ces douleurs.
Ok, merci. Et alors justement, tu l'as mentionné, qu'est-ce que le cycle cycling et pourquoi avoir développé cette méthode ?
Alors, quand on a pour clientèle exclusivement des femmes, on ne peut pas faire sans prendre en compte leur cyclicité. Et notamment, quand vos clientes sont algiques, ont des douleurs d'endométriose, cette cyclicité, elle est d'autant plus importante parce qu'on sait que les femmes qui ont de l'endométriose vont avoir des douleurs ou peuvent avoir des douleurs au moment de l'ovulation, au moment des règles, tout au long du cycle parfois. Et ça correspond à la cyclicité hormonale. Et donc, le cycle syncing, c'est accorder son mode de vie avec cette cyclicité hormonale. C'est comprendre qu'après ces règles, la grande phase du cycle, qui est la phase folliculaire, vous êtes boosté, vous êtes euphorisé par une hormone dominante qui est les œstrogènes, donc vous vous ressentez de nouveau légère et dynamisé. Petit pic de chaleur, montée de température au moment de l'ovulation, peut-être libido qui est décuplé et qui correspond au pic d'œstrogène qui peut être assez douloureux en cas d'endométriose. Et seconde partie de cycle, la phase lutéale qui est elle dominée par l'hormone de progestérone. Progestérone est une hormone qui ralentit le corps et en ralentissant ce corps, le lien avec l'endométriose, c'est que le système digestif va être plus lent. Donc vous avez des intestins qui travaillent moins vite, qui sont plus denses. Et si vous avez une endométriose qui est digestive, donc qui est vraiment tout autour des intestins ou avec des lésions qui sont autour des intestins, c'est le moment où vous allez être peut-être avec un syndrome prémenstruel plus marqué et plus en souffrance. Et adapter son mode de vie, peut-être même son alimentation en fonction de ces 10 hormones et de ces phases de cycle, c'est juste la logique de la cyclicité féminine.
C'est cohérent, effectivement. Et alors, tu as commencé à l'expliquer, mais pourquoi ta pratique, elle peut être recommandée dans le cadre de l'endométriose et quels vont être ses bienfaits, très concrètement ?
Alors, dans le cas de l'endométriose, effectivement, il y a des moments phares du cycle féminin où il peut y avoir de l'inconfort, donc ovulation, seconde partie de cycle, phase lutéale, au moment des règles. Et moi, je suis beaucoup plus focus sur le mouvement que sur le sport en tant que tel. Il n'y a pas besoin de mettre des labels sur le sport et te dire que ce sport fait ceci ou ce sport fait cela. En fait, quand on est avec des patientes qui ont de l'endométriose, c'est pas tant le sport en tant que tel qui est important, c'est plus le mouvement. Alors, c'est un mouvement qui va être maîtrisé, c'est un mouvement qui va être précis, un mouvement sur le bassin, parce que le bassin féminin n'est pas le même que le bassin de l'homme, déjà par sa morphologie, mais aussi par anatomiquement les organes qu'il contient. Il y a un utérus en plus, il y a des ovaires qui font le fameux ballonnement de seconde partie de cycle. On a juste l'impression d'avoir le ventre gonflé, et ben, lié à cette digestion qui est un petit peu ralentie. Et dans le cas de l'endométriose, nous, ce qu'on recommande, c'est plus d'avoir une activité physique et sportive qui soit en mouvement, mais moins en intensité, c'est-à-dire pas d'impact, qui viendrait tasser les organes du bassin et ne faire que rajouter des douleurs sur des lésions. Donc typiquement, le running qui a fort impact, la course, course à pied, où vous allez avoir un tassement, voire une congestion abdominale, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, ça peut même faire une congestion pelvienne. Donc beaucoup de densité à l'intérieur du bassin, ça peut tirer sur les ligaments. Les femmes qui ont de l'endométriose le savent, mais c'est très fréquent d'avoir cette endométriose qui est située à l'arrière du bassin, sur les ligaments utérosacrés. Bon, bah, même quand on n'a pas de l'endométriose, on est tout un peu concerné par cette fameuse tension du bas du dos quand nos règles approchent. On est d'autant plus concerné par cette tension quand on a des lésions sur les ligaments utérosacrés. Ce ne serait pas une bonne idée d'aller faire du sport qui soit très en impact et très, très, très cardio, alors qu'il y a déjà une tension parce que l'utérus double de taille avant les règles. Donc, tout ce qu'on va faire, nous, dans ma méthode, tout ce que les coachs qui travaillent pour moi, les éducateurs sportifs diplômés font, c'est de prendre en compte cette cyclicité et de venir proposer un mouvement qui va être un mouvement respectueux de ces lésions. Donc, une coach sur deux a de l'endométriose dans mon équipe, et c'est des coachs qui ont une fine connaissance de l'anatomie pour soulager typiquement ces douleurs sur ligament utérosacré, ces douleurs sur le cul-de-sac de Douglas, zone très sensible entre les intestins et le vagin, et qui peut être très inflammée. Donc, les bienfaits, c'est vraiment soulager les douleurs, mais aussi retrouver beaucoup plus de vitalité, avoir un regain d'énergie, parce que quand on est agique, quand on a des douleurs, on a tendance à se replier sur soi et à en faire le moins possible en se disant qu'on va se préserver. Mais au contraire, un mouvement bien maîtrisé et qui ne serait pas trop intense va vous aider à retrouver de l'énergie.
Ok, parfait. Donc, on commence à le comprendre, ton approche, elle est particulière, elle est adaptée. Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu plus comment se déroulent les cours ?
Alors, on a plusieurs cours, effectivement, au studio. Le principe de l'activité physique adaptée, c'est vraiment un diplôme, d'ailleurs, en France. Il faut en être titulaire. Alors, on a vu les dérives pendant le Covid du sport sur ordonnance. Il y avait beaucoup d'ordonnances qui n'existaient pas, mais alors encore plus de coachs APA, activité physique adaptée, qui n'existaient pas non plus. Donc, nous, c'est vrai que nos cours sont des séances de sport, alors qui peuvent être sur ordonnance, mais qui ne le sont pas nécessairement, où une éducatrice sur deux a de l'endométriose, les autres connaissent très bien la maladie, et les cours se déroulent toujours de la même façon. On demande systématiquement aux élèves où elles en sont dans leur cycle, si elles ont quoi que ce soit à nous partager, comme douleur, comme limitation. On a énormément de femmes avec de l'endométriose, de l'adénomyose. Et puis c'est vrai que le principe du cycle thinking, c'est de recommander les cours selon le moment du cycle. Alors nous, nos cours commence toujours par ces petites questions, où vous en êtes dans votre cycle, mais surtout, est-ce que vous avez bien vu notre roue du cycle thinking ? C'est un schéma qui est affiché à l'intérieur de notre studio et qui permet aux participantes de choisir elles-mêmes les pratiques les plus adaptées, qu'elles se sentent libres. Certaines aiment plus le sport, activité physique et très sportive, d'autres préfèrent les cours de yoga. On a des recommandations pour tout, que ce soit du pilates de début de cycle, du yoga de fin de cycle. Voilà, on recommande en fonction du cycle et on adapte en fonction des différentes pathologies.
Ok. Et alors, quelles vont être globalement les attentes des femmes atteintes d'endométriose qui vont venir pratiquer ? Même si évidemment, c'est au cas par cas, mais tu as un petit peu de recul sur ta pratique aujourd'hui. Qu'est-ce qui ressort le plus ?
Alors, il va y avoir deux grands profils, même si j'aime pas trop mettre les gens dans les cases. Il y a deux grands profils de femmes atteintes d'endométriose qui viennent à nos cours, donc endométriose et adénomyose. Ce sont des femmes qui viennent soit pour soulager des douleurs qui sont très aiguës et qui deviennent invalidantes dans leur vie du quotidien. Et donc ça, c'est plus des femmes qui vont privilégier un yoga qui est un yoga doux. Chez nous, il est appelé fertility yoga, pas parce qu'elles sont en démarche de maternité nécessairement, mais tout simplement parce que les hormones, c'est la base de l'équilibre hormonal, donc c'est la base de la fécondité. Donc le fertility yoga 2, c'est un yoga qui respecte les hormones, donc la fécondité féminine, et qui s'entend comme un yoga de seconde partie de cycle, et un yoga de règles, et qui en fait, seconde partie de cycle, phase lutéale et les règles, sont les moments où les femmes avec de l'endométriose et de l'adénomyose sont souvent le plus en souffrance. Donc c'est un yoga très doux qui va venir leur apporter de la mobilité très fine et très maîtrisée au niveau du bassin, soulager cette chape de plomb, cette espèce de ventre très lourd qu'on a, cette tension qu'on a quand on a de l'endométriose et de l'adénomyose. Donc ça, c'est le profil doux, le profil algique, celles qui ont des douleurs et qui veulent être soulagées. Et il y a un autre profil de celles qui sont en adaptation, si je puis dire, celles qui veulent continuer à vivre comme elles vivaient avant et qui se disent que parce que je suis coach éducateur sportif APA et que mon équipe est aussi très bien versée dans l'anatomie féminine, elles vont trouver chez nous une façon de pratiquer avec l'intensité qu'elles avaient l'habitude de pratiquer, mais avec des profs qui sont formés pour leur donner des variations et leur dire, bon bah là, peut-être qu'avec vos pathologies, c'est la limite, on ne force pas. Ou peut-être que même avec ces pathologies, elles n'auraient pas compris le lien avec le bas du dos qui tire, l'abdomen qui est souvent congestionné, et elles s'attendent et elles ont cette attente que notre équipe, y étant formée, puisse leur proposer des variations adaptées. Donc on a beaucoup de cours qui sont des cours de renforcement musculaire. Souvent des femmes qui se rendent compte que avec l'endométriose ou l'adénomyose, peut-être même autre sujet qui est souvent lié à cette donne d'immunité qui est l'intestin irritable, elles ont le ventre qui est vraiment lourd, qu'elles ont besoin d'être soulagées, et donc on va leur proposer ce renforcement un peu autrement, en faisant des cours qui soient un peu plus intelligents, c'est-à-dire on ne va pas faire des crunchs et du gainage, des planches non-stop, ce qui est trop fatigant quand on a des lésions dans le ventre, mais on va aller travailler un peu plus sur les extérieurs, un peu plus de mobilité des hanches, mais encore une fois avec un bon renforcement des abdominaux obliques. Donc c'est pas leur les empêcher de travailler, c'est pas leur dire vous pouvez pas, il faut que vous alliez faire que du yoga doux, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui ont envie de garder une activité physique dynamique, tonique, et qui veulent rester musclées. On leur propose une alternative. Donc voilà, on a deux grands profils, celles qui veulent rester dynamiques et qui font du renfo, un renfo qui est adapté, et celles qui font vraiment des cours doux parce qu'elles apprivoisent la douleur.
Bien sûr, et encore une fois, avec l'endométriose, c'est au cas par cas. Et alors, quels sont les retours que tu as de ces femmes atteintes d'endométriose qui pratiquent tes cours, quels qu'ils soient?
Alors, les retours qu'on a, c'est qu'elles sont déjà très soulagées parce qu'elles ont l'impression d'être comprises, qu'on connaît la maladie, on sait que, comme tu le disais, c'est du cas par cas, c'est-à-dire qu'il n'y a pas deux endométrioses qui sont pareilles, ce n'est pas une maladie avec la même forme, ce n'est pas une pathologie cardiaque où on va voir les mêmes symptômes, c'est une maladie qui est très vicieuse et très injuste parce que la gravité de la maladie ne corrèle pas avec la douleur. Donc on a des femmes qui peuvent être très algiques alors qu'elles n'ont pas beaucoup de lésions, mais ce sont des lésions qui sont situées à un endroit très particulier du système nerveux et qui fait que ça rend la douleur très aiguë et difficilement supportable. Et donc les retours qu'on a, c'est déjà qu'elles se sentent comprises parce que c'est un sujet qu'on maîtrise très bien, l'endométriose. Et qu'en même temps, on a cette humilité de dire on n'est pas à votre place. Donc il n'y a pas des choses qu'on vous dit de faire et d'autres qu'on vous interdit de faire. On vous fait des recommandations. On est là pour vous faire du bien. Donc en plus d'être comprises, elles se sentent soutenues dans leur démarche. On ne leur dit pas non, tu as de l'endométriose, tu n'as plus le droit de faire ça. On leur explique les conséquences, on leur explique quelle est la cyclicité du corps féminin. Maintenant, c'est ce que je dis souvent au début de mes cours, moi je ne suis pas de la police des règles, donc s'il y a une fille qui veut faire quelque chose d'un peu intense le premier jour de ses règles, je ne vais pas l'en empêcher, je vais juste lui expliquer pourquoi ses muscles vont tétaniser, pourquoi elle va être plus fatiguée, pourquoi ce sera plus difficilement réalisable, mais on est juste là pour les accompagner et leur faire vivre au mieux ce moment qui est quand même censé être un moment plaisir et un moment de santé. Moi, je parle beaucoup de sport santé plus que de performance.
Bien sûr. Et alors justement, tu l'as évoqué plusieurs fois et tu en as déjà parlé, mais cette certification APA, qu'est-ce que ça veut dire concrètement et en quoi c'est un plus pour les femmes atteintes d'endométriose ou d'ailleurs d'autres pathologies féminines qui peuvent assister à tes cours?
Alors l'APA, activité physique adaptée, c'est une certification qui doit être passée en plus du diplôme d'éducateur sportif. C'est une certification qui ne traite pas de l'endométriose. Alors moi, quand je l'ai fait, mon mémoire, j'ai négocié de le faire sur l'endométriose. On m'a dit « Oh, quand même, c'est pas une ALD, c'est pas une infection de longue durée. Donc, pourquoi tu pourrais ?» Je leur dis « Parce que ça concerne beaucoup de femmes. » Donc vous allez.
Et on sait que ça peut l'être en plus, une ALD finalement.
Ça peut l'être, une ALD, voilà.
Elle n'est pas automatique.
31 exactement.
Bien sûr.
C'est vraiment au cas par cas, en fonction d'à quel point elle est invalidante. Et donc ce diplôme de coach, c'est un diplôme supplémentaire qui demande de bien comprendre comment on va adapter l'activité physique. L'activité physique ne doit pas être la même pour tous et il existe certaines limitations. Et donc, la grande recommandation pour ce qui concerne l'endométriose, que moi j'ai écrit et qui ensuite a été diffusée à une fédération de 70 000 abonnés adhérents, c'est que l'activité physique adaptée en cas d'endométriose doit se concentrer sur un renforcement musculaire doux et non pas une activité cardio intense. C'est très important parce que les femmes souffrant d'endométriose ont souvent le système nerveux qui est fatigué. Le schéma de la douleur, ça fatigue. Et c'est très important de leur dire qu'elles peuvent maintenir une activité de renforcement, mais que les coachs qu'elles ont en face d'elles doivent savoir s'adapter et ne pas leur demander de faire du cardio non-stop.
Et c'est une information précieuse qu'on nous dit trop peu, en fait, dans les parcours de soins d'endométriose. Donc, merci pour cet éclairage. Et alors, on l'a évoqué très rapidement tout à l'heure, le sujet de la fertilité. Ce n'est pas systématiquement le cas, mais malheureusement, l'endométriose peut parfois être la cause de problèmes de fertilité. En quoi ta pratique peut également les aider et les accompagner à ce sujet-là?
Alors, comme on se le disait, tu le sais, moi je suis quelqu'un de très humble et je pense qu'il n'y a rien de plus galvaudé, par exemple, que d'appeler un yoga du endo-yoga. C'est-à-dire que moi j'ai des vidéos sur ma plateforme de cours en ligne où on a mis une catégorie endo-yoga et à chaque début de cours, je fais une longue liste de disclaimers en disant je ne connais pas vos profils individuels, vous allez avoir des lésions qui ne sont pas au même endroit que votre amie pratiquante qui a de l'endométriose, vous n'aurez pas le même ressenti et malheureusement ça n'aura pas le même impact sur tout le monde. Alors les problèmes qui sont liés à l'infertilité, ça peut être de différentes natures. L'endométriose peut être située au niveau des ovaires et donc là on va avoir un malfonctionnement des ovaires et donc toute la pratique du fertility yoga qui est une pratique qui est une démarche totalement médicale qui est issue de l'université d'Harvard, donc quand même assez fiable, une démarche de la faculté de médecine d'Harvard qui a couplé le yoga avec des traitements de FIV pour avoir des meilleurs résultats. Part du principe qu'il faut favoriser le bon travail ovarien en abaissant le niveau de stress. Or, quand on est systématiquement algique, quand on a tout le temps mal, votre système nerveux, il n'en peut plus. Parce que la douleur, ça fatigue et ça met tout le temps en alerte. Et le principe des grands mouvements, des exercices qu'on recommande, nous, pour le fertility yoga appliqué à l'endométriose, c'est de venir libérer doucement le bassin. Alors, l'endométriose peut atteindre les ovaires et faire que les ovaires fonctionnent moins bien. L'endométriose peut être... tellement importante autour du système digestif que ça peut aussi faire des lésions qui pressent et compriment un peu l'utérus. Il peut y avoir beaucoup de sujets d'infertilité liés à l'endométriose et également en cas d'adénomyose qui va déformer l'utérus et qui va favoriser le risque de fausse couche. Il peut y avoir aussi le chemin qui est obstrué entre les ovaires et l'utérus, donc au niveau des trompes, là où la fécondation doit avoir lieu. Et c'est pour ça que plusieurs examens peuvent être faits pour voir si... l'utérus permet bien la circulation et des ovules et des spermatozoïdes. Alors, donc l'endométriose affecte vraiment la fertilité et donc nous on va apporter de la mobilité à l'intérieur du bassin. Maintenant j'ai encore l'humilité de toujours dire que on ne peut pas régler des maladies, on ne peut pas apporter une réponse à des pathologies avec du yoga. Ça va faire beaucoup de bien. Mais moi, j'ai un profond respect pour le corps médical et je sais que je viens en complément, que mes cours sont des compléments et qu'ils font du bien anatomiquement pour faire bouger la zone, pour vasculariser, pour retirer de la congestion abdominale et pelvienne, qu'ils vont abaisser le niveau de stress. Ça, il y a pléthore d'études scientifiques qui montrent que le yoga abaisse le niveau de stress et donc l'hormone de stress, cortisol, qui est délétère. Et puis, il faut se dire que voilà, un diagnostic d'infertilité, qu'il soit dû ou pas à de l'endométriose, c'est vraiment très grave chez une femme. Il y a des études qui ont conclu que c'était autant de stress qu'un diagnostic de cancer. Donc, c'est quelque chose qui touche vraiment le féminin très profondément. Et donc nous on y répond par du mouvement, par abaisser ces hormones de stress et aussi une démarche qui est très proprioceptive. Ça c'est la base de tous mes cours, mais particulièrement quand mes élèves ont de l'endométriose, c'est de bien leur expliquer l'anatomie, parce que parfois elles sont un peu lâchées dans la nature, elles viennent me voir en me disant bon j'ai de l'endométriose, je leur demande où et elles ne savent pas.
Donc elles manquent d'informations.
Exactement. Donc nous notre démarche elle est très proprioceptive, c'est un peu de leur expliquer pendant chaque exercice, pourquoi on le fait, à quel point il va les soulager sur le moment, mais surtout comment il peut les soulager en dehors des cours si elles le font toutes seules. Donc proprioception, ça veut dire les aider à s'approprier leur propre anatomie et qu'elles comprennent qu'avec des mouvements qu'on leur a appris, qu'on leur a transmis, elles sont autonomisées et elles gèrent un peu mieux cette maladie qui se situe dans leur ventre, dans leur bassin.
Et tu as raison, de toute façon, c'est des enjeux tellement complexes que ce n'est pas un cours de yoga ou une manière de fonctionner
Exactement.
qui va résoudre la chose, mais c'est important de savoir que ces pratiques existent et qu'elles peuvent aider avec une hygiène de vie globalement adaptée à éventuellement améliorer ces sujets de fertilité. Merci pour tout ça. Alors justement, tu as mentionné le corps médical et c'est très bien, puisque du fait de ta méthode spécifique, tu es très liée au milieu médical. En France, en tout cas. Alors, quel constat fais-tu sur la prise en charge de l'endométriose en France et plus généralement sur les enjeux de santé féminine?
Alors, moi, je suis quelqu'un qui est d'une nature très, très optimiste.
Mais c'est bien, on en a besoin.
c'est voire un petit peu dangereux parfois parce que j'évalue mal le risque et je suis toujours très, très, très optimiste. Mais moi, je pense qu'il faut déjà se féliciter du moment qu'on est en train de vivre parce qu'on aurait vite fait de se concentrer sur toutes ces années où la part n'a pas été faite, il n'y a pas eu de considération pour le corps de la femme, pour la santé de la femme, pour la différence anatomique de la femme, nous appeler des espèces de furies ou hystériques juste parce qu'on a nos règles. Enfin non, c'est une charge hormonale que franchement je le souhaite pas à un homme. Hein. Je sais plus quelle maman, future maman, accouchée dernièrement de son deuxième enfant. Et le premier était un peu grand et quand il se posait la question, tu voudrais une fille ou tu voudrais un garçon? Elle disait, enfin la vie des hommes est quand même beaucoup plus simple. Hein. Et c'est vrai que cette
Il y a
charge
des enjeux,
hormonale.
il y a moins
Oui.
d'enjeux, quoi. Il y a moins de charge mentale de ce point de vue-là.
Exactement. Et la charge hormonale, c'est quand même quelque chose qu'il faut gérer tous les mois dans sa cyclicité. Et donc, moi, je me félicite de faire partie de ce mouvement. Je félicite les gens qui contribuent aujourd'hui. Il y a vraiment une lumière qui est mise sur la santé de la femme, tout ce qui peut être fait et qui ne relève pas que de la médecine allopathique. J'ai un grand respect pour le milieu médical, mais j'imagine qu'avec toute la bienveillance dont certains sont capables, d'autres ils sont en grand apprentissage et on n'a plus les mêmes attentes d'un médecin aujourd'hui que d'un médecin il y a 10 ans ou il y a 20 ans. Donc il faut aussi avoir cette compréhension de la société qui évolue et leur laisser le temps d'évoluer. Je pense que aujourd'hui, il faut essayer de faire quelque chose qui soit un tout petit peu plus intégratif, un peu plus holistique. Les médecins le font très bien dans des démarches d'infertilité et de PMA. Alors certains le font très bien. Moi, je suis en lien avec le corps médical parisien qui, pour certains gynécologues, recommande d'aller faire de l'acupuncture, recommande d'aller faire du yoga. Je vois des clientes arriver à notre studio parce qu'on a une cabine de massage, nous dire « mon médecin m'a demandé d'aller se faire masser à ta méthode avant un transfert ». Avant un transfert d'embryon congelé dans le cadre d'une FIV. Donc, on voit qu'il y a une démarche qui est le mieux-être et le mieux-vivre de la patiente. Et qui n'est pas juste symptôme-traitement, qui a pu être le cas pendant des années, et de se dire que pour que un protocole médical et un protocole médicamenteux fonctionnent, il faut aussi que sa patiente aille bien dans la globalité de sa vie. Et pas juste qu'elle ressorte avec une ordonnance à la main d'une consultation. Et ça, je pense vraiment que les médecins l'ont entendu. On ne change pas du
jour au lendemain.
C'est
en train d'évoluer.
Exactement. On ne peut pas tout changer du jour au lendemain, mais je pense qu'il faut déjà se féliciter de l'évolution. On a des centres dédiés à l'endométriose. Alors effectivement, à Paris, on est extrêmement privilégiés, ça c'est certain. On n'a pas 2 heures de voiture à faire pour aller dans un centre régional.
Mais ça se développe de plus en plus, même en région, effectivement.
Exactement.
Et ça rejoint toute cette idée de médecine intégrative où c'est des médecines complémentaires qui vont prendre en charge à 360 la patiente et dont les pratiques comme la tienne vont faire partie.
Exactement. Et puis, on n'attend pas d'un gynécologue qui sache nous faire toutes les recommandations nécessaires à nos changements d'alimentation. Enfin, c'est pas un gynécologue qui a fait sa spécialité sur l'appareil reproducteur de nous dire de manger des bons oméga-3, de changer tout notre mode de vie pour qu'il soit anti-inflammatoire. Enfin, vous pouvez être accompagné par d'autres personnes pour ça. Alors, il faut les choisir. Il faut qu'elles fassent partie d'un réseau qui reconnaît leurs pratiques, si c'est pas des pratiques réglementées. Parce qu'il faut aussi se dire ça, c'est qu'en France, on a une particularité.
Bien.
société, c'est que on n'a pas le même régime légal que partout en Europe ou aux États-Unis. Aux États-Unis, un naturopathe, d'ailleurs on n'appelle pas ça un naturopathe, on appelle ça un naturopathic doctor, c'est minimum 6-7 ans d'études. Voilà, on a un régime qui est très différent, donc il faut laisser le temps à tout le monde de s'adapter à ça, mais je peux que être pleine d'espoir, ce qui est ma nature profonde, sur le fait que, entouré de bons naturopathes, entouré de bons acupuncteurs, d'éducateurs sportifs qui soient de plus en plus sensibilisés aux maladies invalidantes, aux maladies chroniques, la prise en charge de l'endométriose, de l'adénomyose et de toutes les pathologies du féminin ne pourra que s'améliorer d'année en année.
Je prends cette note positive et on va continuer d'ailleurs sur cette lancée optimiste avec la dernière question. As-tu un conseil ou une bonne pratique à donner aux femmes qui nous écouteront ? Femmes ou d'ailleurs hommes et entourage.
Ouais. Alors, j'ai été à un visionnage d'un film, d'un documentaire sur l'endométriose d'une réalisatrice américaine. Et je crois que tu y étais. Il y avait une table ronde, des intervenants après, médecins, et puis une des participantes a fait une petite digression en disant « Et aujourd'hui, on a Charlotte dans l'assemblée. » Moi, je m'attendais pas du tout à ce qu'il y ait une mention de mon fertility yoga comme ça. Mais je me souviens avoir rencontré un couple. Donc ça, c'était la version un peu marrante qui rendait le sujet un petit peu léger et tout le monde était plein d'espoir. Mais je me souviens avoir rencontré un couple et j'étais très surprise que le mari soit là, et c'est le mari qui m'a, on peut littéralement le dire, quasiment harcelé derrière en me disant « Je voudrais savoir quels soins vous allez pouvoir faire à ma femme, elle va tellement mal, son endométriose est ingérable, parfois les cycles, enfin voilà, son cycle se passe bien et puis le cycle suivant est totalement invalidant, les hormones sont pas, enfin les effets des hormones sont pas du tout prévisibles. » Et manifestement, on était face à quelqu'un qui avait déjà beaucoup changé son mode de vie, son alimentation. Ils étaient un peu à court d'idées. Et je me suis pas dit, oh là là, ce monsieur est désespéré. Je me suis dit, c'est absolument incroyable ce qu'il écoute sa femme. Ce qu'il écoute. C'est-à-dire que dans son discours, on comprenait qu'il avait totalement intégré la donne des hormones. On comprenait qu'il avait aussi identifié que d'un cycle à l'autre, en dépit d'une alimentation assez constante et d'un mode de vie qui est régulier et routinier, eh ben, il pouvait y avoir des mois qui étaient très douloureux et on ne sait pas pourquoi, et d'autres qui étaient bien vécus. Et je me suis dit que cette personne l'écoutait. Enfin, voilà, que là, on était face à un couple où un conjoint écoutait. Et quand on ne vit pas la maladie et quand on ne l'a pas, c'est peut-être difficile d'imaginer ce que ça peut être en termes de souffrance, mais il suffit d'une chose, c'est d'écouter. On vit dans un monde où globalement, si on s'écoutait plus les uns les autres, je pense qu'on irait mieux. S'écouter soi d'abord, écouter ce que notre corps nous donne comme indication, et puis écouter les autres. Parce qu'on pense peut-être qu'on sait, mais quand votre voisine, quand votre ami, quand votre collègue au travail, quand un proche, l'ami d'un proche, vous dit avoir une endométriose invalidante, c'est pas juste une douleur de règles. C'est pas juste quelque chose qui fait mal et qui fait qu'elle reste au lit et qu'elle prend un jour off parce qu'elle a ses règles. C'est pas ça. Et donc, écouter cette personne, c'est lui donner une attention qui vous coûte rien, mais qui fera énormément de bien. Donc, certes, écoutez-vous, faites du bien à votre corps, mais écoutez aussi les autres.
Bien sûr. Et alors déjà, je trouve le témoignage extrêmement touchant parce que ça montre l'importance de l'aidant et de l'entourage dans le cadre des pathologies chroniques et notamment de l'endométriose. Et effectivement, merci pour à la fois ce conseil parce que je pense qu'il est très juste. Et je me permets de donner le titre du documentaire qui s'appelle « Below the Belt » et qui est assez passionnant quand on veut découvrir le milieu de l'endométriose et les conséquences que ça peut avoir. Merci beaucoup Charlotte pour cette note finale, pour le partage d'expertise, ta connaissance et ton engagement. Je pense que ça fera du bien à celles et ceux qui nous écouteront. Donc merci pour ça.
Merci à toi.
C'est la fin de cet épisode. J'espère que cet échange vous a aidé à y voir plus clair et à trouver des pistes pour mieux comprendre et appréhender l'endométriose. Retrouvez d'autres témoignages et partages d'expertise pour mieux vivre avec l'endométriose sur le site endobloom.fr. Et à bientôt pour de nouveaux épisodes.